Docteur Thévenot.
Merci.
À vous, merci.
Bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisateurs et aux présidentes de m'avoir proposé de faire cette communication qui va, à la suite de la présentation de Monsieur Leda, montrer l'expérience d'un tricotage entre un cabinet d'architectes et des équipes de santé mentale, en l'espèce les équipes de santé mentale de Tourcoing, les deux pôles de psychiatrie. On a donc édifié, il y a maintenant 5 ans, c'est notre anniversaire, des unités tourquenoises de psychiatrie à raison de 75 lits, 67 lits de psychiatrie générale et 8 lits de centres d'accueil et de crise, pratiquement tous en sectorialité. Alors, qui a le petit bâton qui fait défiler ? Donc, pour information, on travaille donc sur le site de Tourcoing, une ville à deux visages, hein, avec un centre-ville tout à fait traditionnel, et puis une zone beaucoup plus banlieue. Et c'est sur cette zone qu'est sont installées les unités tourquenoises de psychiatrie sur le site de l'hôpital général. J'appuie là, c'est ça ?
Non, voilà. Il faut diriger vers les enseignes.
Oh, bon, bah, je vais dire diapo suivante. oui, encore un petit peu vers l'ouest. Un petit peu vers l'ouest, voilà. Hein, donc, les secteurs de psychiatrie de Tourcoing font partie des secteurs épaules de l'EPSM Lille Métropole. Voilà le site d'Armentières, qui est situé à 40 km de là. Diapo suivante. Hein, et donc, le lieu d'installation, hein, le site de l'hôpital général Guy Châtillier, dans le quartier de la Bourgogne, à côté de la Belgique, un hôpital tout à fait classique, avec plus de 800 lits, hein, à peu près toutes les spécialités, et puis un gros service d'urgence avec 50 000 passages par an. Alors, qu'est-ce qui nous a motivés pour argumenter cette demande de délocalisation ou de relocalisation, on peut y réfléchir. Hein, c'était tout d'abord les changements internes et externes sur les pôles, les recommandations de l'OMS et puis d'autres influences. Diapo suivante. Donc les changements qui nous paraissaient nécessaires, ils provenaient de l'évolution des deux pôles, avec notamment la mise en place d'une bisectorialité. Très vite, on a travaillé hein, pour la ville de Tourcoing, étroitement associé, monsieur le docteur Lalot, autre chef de pôle, et moi. Et puis, en même temps, on a développé le partenariat avec la ville, les associations de patients, et si bien qu'on a pu entamer l'idée qu'il fallait trouver des lieux d'accueil pour des populations qui devenaient de plus en plus importantes dans notre pratique. D'une part, les suicidants qu'on rencontrait dans le service des urgences qui refusaient d'être hospitalisés à l'EPSM Lille Métropole. Je ne veux pas aller là-bas, je ne veux pas aller chez les fous. Et puis, la population des personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques et qu'il faut bien réinsérer au plus proche de leur lieu d'origine, de leur famille, et donc pour lesquels l'hospitalisation à Armentières n'était pas du tout adéquate. Alors on avait aussi l'expérience de contraintes en restant à Armentières avec un secteur éloigné. Hein, les unités étaient appauvries en médecins, puisque les médecins étaient tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ces unités à Armentières étaient soit traditionnelles selon le modèle hygiéniste ou alors c'était des USN, mais elles étaient disséminées, on n'arrivait pas à faire circuler les patients, et patients et équipes soignantes étaient en fait prisonnières de leurs murs. Donc on avait une qualité des soins pas très bonne, et puis on savait que ces méthodes, ces techniques de soins, même si elles étaient dispensées par des personnels tout à fait dévoués et de qualité, eh bien elles augmentaient la stigmatisation liée à la maladie mentale et l'exclusion sociale. On était également confrontés de façon récurrente à des problèmes de violence, qui étaient peut-être liés aux caractéristiques sociales et culturelles de notre population, mais aussi aux contraintes architecturales, avec la salle commune en bas, les lits au premier étage, les conditions de promiscuité ou de total isolement des patients. Et, merci, et des problèmes d'accessibilité à des activités à l'extérieur. Diapo suivante. Donc, autre diapo suivante. Donc, c'est à l'envers. Voilà. Hein. Ce qui nous a influencé aussi, c'est dans les années 2000, les recommandations de l'OMS. Hein, en 2001, c'était donc pour 10 ans une réflexion à l'égard de la santé mentale avec le slogan « Non à l'exclusion, oui aux soins », diapo suivante, et un plan global d'action. Hein, j'ai mis en rouge ce qui correspondait plus précisément à l'exigence en matière de lieux alternatifs de soins, lutter contre la stigmatisation, renforcer les droits des malades, améliorer les pratiques professionnelles, développer les partenariats et organiser une offre de soins diversifiée et coordonnée. Diapo suivante. Alors, d'autres influences, c'est tout d'abord l'enquête santé mentale en population générale qu'on a réalisée en 1999, qui a mis en évidence la fréquence de troubles de santé mentale dans la population, principalement représentée par des pathologies qui sont la dépression, l'anxiété, hein, et ainsi que le recours à l'alcool et aux toxiques. Deuxièmement, l'influence de l'ARH de l'époque, qui insistait sur le décloisonnement de la psychiatrie, l'importance de l'intervention aux urgences. Et puis aussi, hein, l'action des élus locaux qui nous ont vraiment aidés à installer les unités tourquenoises de psychiatrie. D'autres influences, les influences plus de nos maîtres à penser, hein, Hockmann, Basaglia, un Trieste, dont vous a parlé le docteur Marsili, les structures de crise, hein, qui étaient définies par André Oli à Genève ou de Claire à Bruxelles, et puis des visites qu'on a faites dans des sites déjà existants, et notamment à Dreux, où on a rencontré M. Loda. Donc, tout ça, hein, correspond bien au passage qu'on est en train de vivre encore actuellement, hein, de la centralisation hospitalière avec en périphérie les soins externes à un modèle du 21e siècle, diapo suivante, hein, quelque chose de beaucoup plus diversifié où l'hospitalisation n'est qu'un passage de courte durée dans la vie d'un patient qui est pris en charge, hein, par une équipe mobile pour lui-même, hein, lui-même étant aussi mobile avec une grosse importance du self-help et aussi du travail avec les proches, les familles. Donc le résultat de ces réflexions, on vous a déjà montré le plan, on va passer quelques photos, hein, que vous connaissez déjà un peu, on les a suffisamment utilisées. Vous remarquerez que M. Loda aime beaucoup le vert. Alors, les qualités des unités tourquenoises de psychiatrie, c'est évidemment leur localisation centrale, l'accessibilité par les moyens de transport commun, l'implantation sur le site de l'hôpital général, hein, avec les facilités pour les deux sites d'avoir accès à un plateau technique de qualité, et puis aussi la dédramatisation du séjour en psychiatrie, car l'ensemble de l'hôpital est un peu sanctuarisé dans le quartier. Par exemple, les UTP n'ont jamais été vandalisés, on n'a jamais eu de tag, jamais eu de choses comme ça. Hein, on est plutôt vécu comme une structure de recours que comme une structure inquiétante, comme est vécu à très grande distance le site Armentières-Roi. Et puis, la proximité d'un dispositif de santé mentale extra-hospitalier qui a été complété avant la construction des unités tourquenoises de psychiatrie. Donc ça permet, hein, aux patients d'entrer par une des portes du système de santé mentale, hein, et d'y voyager en fonction de leur état clinique. Une diapo suivante. Donc l'architecture, ce que nous, psychiatres, on a trouvé intéressant dans l'architecture, c'est la disposition en micro-modules, hein, qui permettait une hospitalisation variée. Hein, une personne peut rentrer par le service des admissions, mais au bout de 2 jours, être dirigée vers le service de psychiatrie générale, puis adressée en ville. Et ça permet aussi, hein, cette itinérance des patients, que les équipes se parlent et qu'elles soient plus cloisonnées dans leurs UF. Un autre intérêt de la structure, c'est la proximité des salles d'activité intra-hospitalières. Hein, il n'y a que la rue à traverser, enfin la rue interne à l'hôpital, pour y accéder. Et on n'entend plus le malade est trop dangereux, il faut deux infirmiers, le site d'activité est trop loin, il est donc cantonné dans sa chambre. Ça a été donc un point tout à fait de progrès et ça renforce évidemment la dynamique du soin. Diapo suivante. Pour les patients, eh bien, ils étaient très contents, les patients, puisqu'ils sont passés de chambres à deux ou trois, hein, à des chambres individuelles en grande majorité, des chambres qui bénéficiaient d'une prévention, de mesures de protection à l'égard des comportements suicidaires, avec, donc, on a ôté toutes les aspérités qui, où ils pouvaient éventuellement s'accrocher. On a mis les radiateurs, ont été intégrés dans le plafond. Hein, il n'y a pas vraiment d'endroits pour réaliser des tentatives de suicide. Ce que les gens perçoivent bien, hein. Un malade m'a dit, écoutez madame, je voudrais sortir de cet hôpital parce que moi je veux me suicider, mais j'y arrive pas chez vous. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Ils peuvent aussi vivre ensemble, et M. Loda a beaucoup détaillé tout à l'heure, hein, les espaces interstitiels qui permettent à la fois aux patients mais aussi aux professionnels d'être là sans leur costume, hein, leur costume identifié au diagnostic ou identifié à la fonction soignante. Et puis, donc, cette facilité à circuler à l'intérieur de l'hôpital. Enfin, c'est la pénétration du monde extérieur dans cet hôpital, puisque, évidemment, il est complètement ouvert en dehors de cette petite unité de soins intensifs. Diapo suivante. Pour les équipes soignantes, hein, les infirmiers, eh bien, ils ont eu quand même un allègement très important de leur charge de travail. Ils ont vu s'améliorer la qualité des soins parce qu'ils avaient à gérer des petits effectifs, donc ils connaissent tous les patients. Et puis, ils ont bénéficié aussi de la limitation du risque suicidaire. Ils étaient moins anxieux. Hein, et aussi la sécurité des dispositifs liés aux chambres de soins intensifs. Hein, et puis, qui était complétée par la formation Oméga, dispensé par le PSM Lille Métropole. Enfin, on a proposé pour les psychiatres et les médecins au premier étage un ensemble de bureaux attractifs et personnalisés qui ont sédentarisé cette population difficile à maintenir. Et à présent, les équipes... Non, pas du tout. Hein, on a stabilisé l'effectif et à présent les équipes savent appeler, interpeller à l'étage tout médecin qui s'y trouve. Voilà, c'était donc une manière de nous apprendre à travailler avec de nouvelles habitudes. Diapo suivante. Pour les médecins, hein, ben, ils étaient très contents parce qu'il y avait moins de routes à faire. Ils pouvaient trouver, ils avaient leur bureau personnalisé, mais dans chaque UF, ils pouvaient avoir un bureau médical assez bien agencé où ils pouvaient voir les patients et puis bénéficier d'espaces ressources, hein, pour travailler, mais bibliothèque, médiathèque, vidéothèque, etc. Hein. Et donc, on a ainsi pu, avec deux pôles, assurer une communauté médicale qui est remarquable par son dynamisme et sa convivialité. Diapo suivante.
En toute humilité, bien entendu.
Bien sûr. Alors, les contraintes, il y a toujours des contraintes dans la vie. Ça a d'abord été les contraintes de nos voisins et pas propriétaires, mais enfin, ils étaient là avant nous, hein, qui ont eu une attitude très contrastée au départ en disant « Non, vous ne viendrez pas » ou bien « Ah, bah, si vous venez, vous aurez tous les alcooliques. Dès qu'on verra un petit bout de psy dans un patient, on vous l'envoie. » Donc, on a dû étroitement informer la CME, hein, des pratiques qu'on estimait adaptées à notre fonction. Les problèmes liés à nos équipes médicales, alors qu'on était encore sur le site Armentier-Roy, donc c'était « on va être trop fatigué, on fera des gardes, on va être obligé de travailler comme des robots, etc. Bon, » des peurs habituelles. On y a répondu en changeant pas mal de... Enfin, quelques médecins sont partis. Ceux qui sont restés sont fanas maintenant. Et puis, pour les équipes soignantes, c'était beaucoup plus compliqué puisque les équipes soignantes avaient souvent leur maison qui était installée à 40 km de là avec des difficultés de circulation, des bouchons, des embouteillages. Et donc là, il y a eu un énorme travail réalisé par la direction des soins de l'EPSM et par l'ensemble des directions pour aménager hein, ce transfert. Et puis les patients au début, bon, les patients sont souvent comme ça. Ils disent, on ne veut pas quitter Armentières, on le connaît, mais une fois qu'ils sont arrivés aux USN, aux UTP, ils étaient très contents. Ils disent, bon, maintenant, on ne veut plus quitter les UTP. Diapo suivante. Donc, on a encore quelques contraintes, les contraintes de les défauts de nos qualités. Hein, d'abord, l'attractivité. Alors, évidemment, auparavant, un certain nombre de patients ne voulaient pas aller à Armentières, mais maintenant, beaucoup de patients ou de personnes disant qu'ils sont patients veulent venir, et donc on doit gérer la demande d'hospitalisation. Il n'est pas toujours facile qu'elle vienne des patients eux-mêmes ou des voisins qui nous les adressent de façon un peu aveugle. Et puis ce que j'appelle l'arthrose institutionnelle, ce sont les vieilles habitudes de l'asile qui reviennent de temps en temps. C'est par exemple la porte d'accès à l'extérieur vers la rue qui est fermée. Avec des intentions positives indéniables. C'est pour le bien des patients qu'on fait ça. Hein. Et donc, il est nécessaire pour nous, chefs de pôle, d'intervenir dès qu'on voit hein, des retours à l'ancienne qui se profilent. Diapo suivante. Oh, c'est trop long. Les facteurs de succès pour nous, hein, ça a été le temps qu'on a passé. Je suis arrivée en 87 dans ce secteur. On m'a déjà parlé de la délocalisation. Donc, on a ouvert en 2007. Vous voyez, j'ai été patiente. La chance d'avoir ce lopin de terre qu'on n'avait pas espéré, la patience, et puis ce travail en intelligence partagée hein, entre architectes, équipe médicale, équipe de soins et direction de l'EPSM Limétropole. Et tout ça, ça nous a fait grandir et ça nous a aidé à mieux vivre ensemble. Diapo suivante, en conclusion, Monsieur le Président.
Hein. Très bien.
On est donc tout à fait content de notre outil. Au bout de 5 ans, il n'a jamais été dégradé. On s'en sert toujours avec plaisir. Hein, on le fait visiter aussi. Et on constate qu'il est conforme aux attentes contemporaines en matière de santé mentale. On trouve qu'il a de l'avenir. Hein, on a déjà une idée de ce qu'on pourrait en faire, même si on diminue le nombre de lits, ce qui est fort probable. Et on pense que d'autres peuvent s'en inspirer, même faire mieux que nous. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.